5, 4, 3, 2, unité.
L'auberge espagnole sur Divergence FM, vie associative, culture, science, environnement, tout y passe et tous y passent.
Le riz est plus évolué que nous. Et c'est pour ça qu'il a plus de gènes.
Celui qui avale une noix de coco a confiance en son anus.
La poésie qui est aussi une arme de libération.
Moi j'engage le tueur à gages.
C'est pas gaz de schiste pour rien.
Carrément à l'échelle du quartier, il y a une approche vraiment bioclimatique.
C'était un bordel musical pas possible.
Écoute ça.
Très beau, très esthétique et aussi assez terrifiant.
C'est une théorie, effectivement, qui est privilégiée par les historiens.
Sur des grosses bobines.
Qui permettent aux jeunes artistes de se situer et surtout de se structurer.
Cet échange Aimé Césaire contre une musique pour les Chibani.
Ici, on est des hackers, waouh, on a un oscilloscope.
Une appropriation et aussi dans une transformation de ces technologies.
Sur le chemin d'une société qui soit un peu plus apaisée.
L'Auberge Espagnole, une émission de la rédaction de Divergence FM, présentée par Gilles Couget.
À voir, à entendre, à toucher.
C'est quelque chose d'assez connu quand même dans le Sud.
Ouais, Divergence, on sent bien, c'est pour ça qu'on revient.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ainsi que l'annoncé Bruno, ce ne sera donc pas Gilles Couget, absent pour raison de santé, rassurez-vous. Juste une petite opération qui risque de se prolonger quelques mois malgré tout. Et donc c'est avec mon compère Alain Vaquier que nous allons donc vous présenter cette auberge espagnole. Vous me direz, une auberge à deux têtes, et il le fallait bien puisqu'aujourd'hui, trois plateaux exceptionnels. Nous commencerons tout d'abord avec monsieur Philippe Martel, qui est donc professeur notamment à l'université de Montpellier 3 et qui nous parlera donc de l'Occitan, également en tant qu'historien un peu de l'Occitanie. Et puis suivra donc un deuxième plateau au cours duquel nous recevrons une très vieille association née du Front populaire Jeunesse au plein air avec le délégué régional Stéphane Rousseau. Et puis, là aussi, événement exceptionnel car nous recevons Ludovic Deleu, qui est le responsable de l'édition du magazine culturel et tendance urbaine Leitmotiv pour son numéro 50. Je vais laisser tout de suite la parole à Alain Vaquier qui va donc s'entretenir avec monsieur Philippe Martel. Alain, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Martel, bonjour.
Bonjour.
Et donc, je vous laisse débattre entre vous.
Monsieur Martel, donc, on rappelait que vous êtes professeur dans le département occitan de l'Université Paul Valéry, mais vous êtes de formation historien.
Tout à fait.
Alors, on va essayer d'aborder l'occitan, ou plutôt l'apprentissage de l'occitan, d'un point de vue un peu historique d'abord. On est dans une situation paradoxale où cette langue a, on va dire, presque disparu des foyers la parlant, et donc les enfants ont peut-être un peu de mal à l'aborder. Mais par contre, on a un mouvement qui consiste à voir des gens qui choisissent de réinvestir cette langue à des âges complètement différents. Comment s'articulent ces deux approches ?
Ben c'est le produit d'une histoire assez compliquée et assez douloureuse. Au cours du XXe siècle et du XIXe siècle, progressivement, l'occitan a cessé d'être la langue de transmission familiale normale dans les familles. Alors d'abord dans les familles de la haute société, ça c'est début du XIXe siècle, puis dans les classes moyennes aux alentours de 1900, et progressivement au cours du XXe siècle, ce sont les classes populaires dans des villes et des campagnes, pas seulement des campagnes comme on le croit souvent, qui ont abandonné l'occitan. Pour une raison très très simple, c'est que si on voulait que les enfants réussissent à l'école, il ne fallait pas qu'ils aient à apprendre dès le départ une langue totalement étrangère. Donc on a essayé de leur parler le français, alors comme on pouvait. Et du coup, l'occitan, c'était encore une langue que pendant très très longtemps, on pouvait entendre, mais c'était les parents éventuellement entre eux, surtout pas aux enfants, les grands-parents, les voisins, les chasseurs, les joueurs de boules, etc. Hein. Et donc les gens de ma génération, c'est un petit peu comme ça que ils ont reçu l'occitan de façon tout à fait passive et il ne fallait surtout pas, d'ailleurs, qu'on s'y intéresse de trop parce que c'était le patois et que le patois, ça vous classe tout de suite comme pas tout à fait dans la norme qui doit être celle normale. Et donc voilà, alors, d'une certaine manière, si on va dans cette logique-là, c'est clair que l'occitan, il est dans un état extrêmement problématique. Hein. La transmission familiale existe encore, hein, mais elle existe dans des milieux extrêmement précis, je dirais dans des choix individuels de transmission. Par contre, il y a une espèce de mouvement de ciseaux qui est en train de se produire depuis, je dirais, 20-30 ans. C'est-à-dire que le stigmate sur la langue commence à disparaître et du coup, l'occitan qui jusque-là était perçu comme un handicap, qui donc empêcherait de réussir à l'école, d'entrer à Polytechnique, d'être président de la République, tout ça. Maintenant, ça commence à devenir au contraire cette chose que l'on nous a enlevée à un certain moment, ou qu'on a enlevée à nos parents, à nos grands-parents, et qui présente malgré tout un intérêt qui peut être un intérêt affectif, un intérêt nostalgique, un intérêt culturel, tous les intérêts possibles. Chacun a son propre chemin vers les retrouvailles avec la langue, mais en gros, il y a un intérêt pour la langue. Et dégagé de tout complexe maintenant. Et donc, du coup, on peut commencer à voir émerger une nouvelle occitanophonie, avec donc des gens qui, comme vous le disiez tout à l'heure, ont choisi effectivement d'apprendre l'occitan, y compris d'ailleurs, et ça c'est assez intéressant, même lorsqu'ils n'ont pas du tout d'origine occitane, de racines occitanes remontant à l'Empèbre. Et du même coup, ça commence à devenir un petit peu cette langue du partage, à côté du français, bien entendu, qui permet de dire des choses, de chanter des choses, de penser, de rêver des choses. Et à ce moment-là, donc, elle a peut-être une possibilité de survie.
Est-ce qu'au fond, l'occitan n'est pas passé du patois, donc avec une notion péjorative quand même, un petit peu dans l'esprit des gens, quand on dit quelqu'un il parle en patois, c'est pas vraiment une langue. Donc est-ce qu'il n'est pas, cette langue n'a pas acquis peu à peu ses attributs de vraiment de langue, et que de ce fait, elle est devenue comme les autres, c'est-à-dire une langue qu'on peut apprendre à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Et est-ce qu'elle n'est, cette langue donc, n'a pas été victime de cette espèce d'idée peut-être fausse du côté universaliste du français?
Alors l'histoire de France est basée sur un certain nombre d'idées simples hein, depuis très très longtemps. Sous l'Ancien Régime, c'était un roi, une foi, une loi. Donc tout le monde doit être pareil, alors ça marchait bien entendu pas. À partir de la Révolution, on a transféré ce modèle à un autre niveau, c'est-à-dire une loi pour tout le monde, une langue pour tout le monde, et l'égalité entre riches et pauvres, à condition bien entendu qu'ils n'oublient pas qu'ils ne sont pas tout à fait pareils les uns et les autres. Et cette espèce d'utopie, d'un corps social totalement homogène, où toute déviance et toute différence serait... toute différence serait perçue comme une déviance.
Voilà.
Et là, on se retrouve finalement dans le prolongement d'une pensée d'Ancien Régime. À partir du moment où vous êtes dans un pays catholique et que vous êtes protestant, c'est un très très mauvais choix que vous auriez dû éviter de faire. Et assez curieusement, ça s'est transmis, avec ensuite toutes les justifications philosophiques, le français, c'est quand même amusant. Le français, langue universelle, ce qui veut dire que toutes les autres langues sont en fait des langues particularistes, perdues dans des coins perdus.
C'est peut-être ce qui a fait le support du colonialisme.
Ça a servi pas mal de justificatif du colonialisme. On allait chercher du pétrole ou du caoutchouc, mais en même temps, en échange, on apportait la possibilité d'accéder à Victor Hugo dans le texte, ce qui, naturellement, est tout à fait nourrissant pour... On a très longtemps vécu là-dessus, avec en plus une nuance supplémentaire qui était une nuance d'ordre social. C'est-à-dire qu'il y avait la langue des gens bien, des bien-parlants, et puis il y avait ceux qui ne parlaient pas bien. Et puisqu'ils ne parlaient pas bien, ils n'avaient pas forcément droit à la parole. Et en même temps, sous l'universalisme de la langue française, affiché, proclamé, avec tout un discours mythologique sur les qualités du français, qui est une langue claire, précise, parce que c'est sujet, verbe, complément. Il y a aussi quelque chose de très très précis, le langage comme outil de démarcation sociale et, j'allais dire, de privation de parole. Si vous voulez avoir droit à la parole, il vous faut utiliser la parole des maîtres, qui sont les maîtres d'école dans un premier temps, et puis d'autres types de maîtres. Oui. Mais sinon, vous vous taisez, quoi, et vous laissez parler les gens qui savent. Et je crois qu'on est toujours un petit peu dans cette configuration, et c'est clair que dans ce cas-là, l'occitan, non seulement ne servait à rien, mais en même temps vous classez.
So juxei de mal en pena, cau volei ulquam in mena, ed uns amei. Num deses arei del fei, car me mahental sadeno, ed un maion us desadeno, car matrai. En une égare des billets, une gare l'isolée, non, faire l'onze quarantaine, non, et ma
月眉，谁暗地晓得那谁呐？当地的母上面那根木雷是农没摘那云朵白。马人多多个美丽，得土大表大地人，那红皮拉腿的土人，那飞白人。马人里树白绿麦，给侬那黄树白人，那哎侬不要一个白人，那你不会谁鬼打给侬的天，那。Za menu neko komplijo, un tam nu gabninu rijo, kuše dun. Nu nema pardi barun, eo gomorši faranijo, lenue la filanijo, dar zedu, ma du zed bar amuru, la du. Sarpio e la buona compagnia el responde la si son defendia rehem beton galio ni fei nulla fantomio l'uso e
Philippe Martel, on écoute là un extrait d'un ensemble, d'un coffret qu'avait consacré Gérard Zucchetto au troubadour et à ce patrimoine absolument extraordinaire que vous connaissez bien, puisque vous êtes historien médiéviste, je crois, comme spécialité.
Contemporanéiste, mais j'ai travaillé aussi sur le Moyen-Âge et nous avons à l'université une collègue qui est spécialiste de littérature médiévale.
Alors, l'occitan, si on l'envisage en tant que langue, vraiment, c'est l'accès aussi à un énorme, et là, cette musique en est la preuve, mais pas seulement, à un énorme patrimoine.
Les Occitans, ont pratiqué, une des rares choses qu'ils aient réussi dans leur histoire, c'est à écrire. Les Occitans inventent, enfin, il commence à exister une littérature occitane à peu près à la fin du XIe siècle, hein, ou même un peu plus tôt, et ça ne s'est pratiquement jamais arrêté avec des hauts, avec des bas, avec des produits pas toujours de qualité. Mais il y a toujours eu une littérature occitane, une culture occitane, une musique occitane aussi, et... Les gens ne savent peut-être pas que nous sommes dans l'année 2014, l'année du centenaire de Frédéric Mistral, qui a quand même obtenu un prix Nobel en 1904, et dont personne ne parle à l'école, mais qui a pourtant écrit une œuvre qui a été traduite dans une bonne trentaine de langues, un peu partout dans le monde. Et donc, finalement, un des arguments que l'on peut utiliser pour l'Occitan, c'est effectivement que c'est la clé qui permet d'arriver à une parole. À une parole, à une littérature, à une écriture, à des aventures poétiques, mais aussi de prose. Je pense à un livre qui vient d'être réédité de Roland Pécou qui s'appelle Portulan, qui est le récit d'un voyage de Roland Pécou jusqu'en Inde et jusqu'au Népal. L'Occitan, ça sert aussi à dire ça. C'est pas simplement la langue pour parler des bœufs et de la pétanque.
C'est pas une langue agricole.
C'est une langue agricole, aussi, mais c'est aussi autre chose. C'est ce que sont toutes les langues, c'est-à-dire elles sont ce que les gens qui les parlent en font. Et donc, à partir du moment où les gens décident qu'avec cette langue-là, on va dire le monde à sa façon, on va dire aussi soi-même, on peut parfaitement trouver donc, de quoi lire, de quoi rêver à partir de l'occitan. C'est un des... c'est pas le seul, hein, il y a d'autres formes d'accès à la langue, mais c'est une des formes, effectivement, d'accès à la langue.
De la même façon qu'on dit que le français, c'est une langue de la raison, ou que l'anglais, c'est une langue plus pragmatique. Est-ce qu'on peut comme ça trouver une caractéristique de l'occitan ?
Il faut toujours se méfier justement de ce genre d'étiquetage. Hein, ce que je disais tout à l'heure, les langues ne sont jamais que ce que leur font dire les gens qui les parlent. Si vous avez du yaourt dans la tête, même en parlant une langue claire et précise comme le français, ça donnera du yaourt. Si vous parlez en anglais mais que vous vous appelez Walt Whitman ou que vous appelez Shakespeare, ça sera du pragmatique peut-être, mais ça sera aussi quelque chose de plus que du pragmatique. Et donc l'occitan, ça peut être... Alors, on voit bien ce que disent les les gens. C'est une langue chantante. On nous le dit volontiers, ça. C'est une langue chantante où on entend du soleil. Quand on parle occitan, on entend du soleil. Oui, oui, il nous arrive d'avoir de la pluie aussi par ici. Et oui, bah, ça, mais toutes les langues chantent. Toutes les langues ont des sonorités. Toutes les langues ont des jeux, justement, entre les sons qui permettent d'en tirer des effets. Je dirais que... je répète, en fait, l'occitan, moi, ça me sert aussi bien à parler à mes étudiants qu'à parler aux copains, qu'à chanter avec des copains des vieux chansons occitanes. Ça permet à mon fils de faire du rap en occitan. Je veux dire, voilà. Alors, à partir de ce moment-là, l'occitan ne sera jamais autre chose que ce qu'en feront les gens qui le parleront, tant qu'il y aura des gens pour le parler. Et j'espère qu'il y en aura encore un certain temps.
Alors, vous évoquez la personnalité de Frédéric Mistral, qui a eu effectivement le prix Nobel. Est-ce qu'il n'y a pas autour de cet auteur une sorte d'aura un peu sulfureuse quand même, sur le plan politique?
Sur le plan politique, et oui. Alors c'est le moment de sortir le souvenir de feu Charles Maurras, qui a été effectivement disciple de Mistral lorsqu'il avait 20 ans, à qui il arrivait de temps en temps d'écrire en occitan, des choses d'ailleurs sans contenu politique, c'était son jardin secret. Le problème de Mistral, c'est qu'en fait, on le connaît très très peu. Et donc, on a un certain nombre d'idées, effectivement. D'abord, première chose, un type qui écrit en patois, il est fatal lié au système féodal, il veut le retour à la Provence du bon roi René. Ça lui arrivait. Mistral était un personnage qui passait à travers des périodes de dépression. Et quand il est en période de dépression, Mistral tient effectivement des discours extrêmement nostalgiques. Mais Mistral, c'est aussi quelqu'un qui a quand même participé à la Révolution de 48. C'est quelqu'un qui a une grande variété qui a vécu très longtemps et qui a donc eu un certain nombre d'évolutions et qu'on ne peut pas enfermer dans un casier, quoi. C'est pas...
Il faut le redécouvrir,
Il faut le découvrir. Oui. Je veux dire, à partir du moment où à l'école, on vous apprend vaguement, qui est Hugo, qui est Lamartine, qui est Molière, personne ne vous dit qui est Mistral. Alors donc, qu'est-ce que vous savez de Mistral? Vous voyez une image, alors il a un grand chapeau, donc personne ne sait que c'est le chapeau des gauchistes de 48, en fait, ou le chapeau de Léon Blum, d'ailleurs. C'est pas particulièrement... Maurras portait un autre type de chapeau, je n'ai pas de description. Lorsqu'on commence à étudier un peu Mistral de près, on s'aperçoit que c'est très compliqué, mais si personne ne vous a dit que c'était très compliqué, mais que ça avait le coup d'y aller voir, vous n'irez pas voir. Et donc, là, il y a un enjeu qui est un enjeu de restitution à la société française dans son ensemble, d'un héritage qui n'est pas seulement l'héritage de la langue française, mais qui est l'héritage de toutes les langues du territoire. Il y a une très très jolie anecdote qui a été racontée par ma collègue Marie-Jeanne Verny dans un livre qui s'appelle « Entre deux langues ». Elle parle de l'écrivain alsacien André Weckmann. André Weckmann est trilingue. Il est mort il y a 2 ans. Il écrivait en allemand, en français et en alsacien. Et il raconte que pendant la guerre, pour éviter d'aller sur le front russe, il était caché dans une cave et que la seule chose qui l'avait empêché de devenir fou dans sa cave, c'était « Les îles d'or », un recueil de poésie lyrique de Frédéric Mistral. Et pour nous, finalement, lorsqu'on a su ça, c'était quelque chose d'extraordinaire, finalement. Mistral, oublié, ignoré de tous, qui a sauvé, finalement, la raison d'un grand poète alsacien. C'est quand même quelque chose. Et là, on n'est pas dans l'enfermement.
Tout à fait. Pour vous, l'occitan doit être enseigné à l'école de la République.
Tout à fait. Il y a bien entendu de la place pour l'occitan dans toutes les filières, que ça peut être la filière privée, ça peut être la filière associative calandrée, il n'y a pas de problème là-dessus. On ne va pas s'embarquer dans une guerre scolaire. Mais l'enjeu, c'est quand même de donner cette culture au maximum de gens possible. Et l'école de tout le monde, c'est l'école de la République. Et donc, il faut que l'occitan ait sa place à l'école de la République et une vraie place.
Merci Philippe Martel.
Merci à vous.
Hemmo quar en grand désir, alque es per faro dar per sen, car le que plus jamais désir, nous n'aus montale en descubrir, ni autre amour non puesque voulez.
Amour me fait un destourbier, et per amour ma gil chuvel, car nous m'apprêt un jour d'arrodier, l'amour qui odeille j'irai rotel, qui me fait soupirer et languir, car tout convenu pressagit, non désir tant comme l'été né. Mais je m'en tiens comme briller, et me donne notre enseignement. Tel que me tiens que nous l'inquiète, le chéhénor et n'il faillit. Après que nous dénirons à culier, qu'un tal parure est de fardier, que nous l'augemons un prêt faire chaber. Tant est rictal et l'éusier, et va envers les plaies d'ardiment, qu'elle dit chumberai entier, qu'au bout retraire un coup volant. Ma quand la verre et nous essaie dire, en spense que mier m'aider souffrir, quand j'y grémou qu'em désespère. Là, perché per rizzo e plegne, verrei con nos fils valimen. A me non nogen l'augenzie, ni ho memo onda non enten, ni ho non vio di pres morir, tendre penor me fai soffrir, l'amour che ho perd per trop temi. Chouet, chumbou et présentier, et sa cara fraîche érigène, elle prend courage et dressurier, que homme verrou, mais nous s'éteint, nous sait qu'elle proche nos devenir, que tout bien maigre va d'angir, si l'homme s'est nous salé. Veille d'illimzen from mes chasier, j'ai plein qu'un prêt d'un sang jumel, et par l'aïveti al chouvrier, et si ta couille tourna pour elle, capté puis-je bien chez des végis, choquer non puis-je les rois des vies, trop père altrui et chasse au verre. Et s'il plaît qu'elle daigne à couler, c'est qu'on a le zoï qui aura tant de désir, toi en qu'elle s'est de nous soleil. Mais s'il non daigne à couler, l'eau des couleurs nous tourner. Qui on nous le vole avant Gine Chambé.
Et bien voilà, après donc ce magnifique débat autour de l'Occitan et de l'Occitanie, avec Alain Vaquier, cette fois-ci, on va carrément changer de sujet. C'est vraiment aussi la diversité à Divergence FM, puisque eh bien, nous recevons dans nos studios M. Stéphane Russo, qui est tout simplement le président de l'association Jeunesse au plein air. M. Russo, bonjour.
Bonjour.
Et par conséquent, j'avais failli commettre l'erreur, je dois vous le dire, d'indiquer l'association Jeunesse en plein air. Et ça n'a vraiment rien à voir, parce que cette association Jeunesse au plein air est vraiment une association vraiment très ancienne, et elle date du Front populaire.
Elle date, oui, de 1938, précisément juste après les congés payés. Et donc, le fait qu'il y ait un sous-secrétariat d'État à la jeunesse, au sport, et que se voient développer les loisirs des enfants et des jeunes.
Et donc, cette association avait été créée sous l'égide d'un ministère, avec quand même des personnalités importantes, puisqu'on peut le dire qu'à une époque, tout à fait au début, et pendant, je crois, presque une dizaine d'années, le président a été M. Édouard Herriot, quand même.
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, donc, nous ne sommes plus dans cette configuration. Nous avons plutôt des militants de l'éducation au sens large. Hein. Tantôt, ça peut être un représentant d'une fédération d'éducation de jeunesse et d'éducation populaire. On peut avoir également des syndicalistes ou des représentants des mutualistes ou parents d'élèves.
C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes une fédération, si je peux m'exprimer ainsi, qui va donc rassembler autour d'elle X partenaires.
Alors, on a pour habitude d'appeler la JPA un réseau, le réseau laïque pour les vacances et les loisirs. Et en fin de compte, c'est une confédération au sens où elle regroupe des fédérations syndicales de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations qui œuvrent autour de la question de l'école, donc les parents d'élèves. Nous avons aussi les DDEN qui agissent auprès des écoles élémentaires.
Et donc, cette association a, si on peut dire, deux buts principaux. Tout d'abord, une aide au premier départ en vacances pour les personnes les plus défavorisées, et puis une autre action qui, elle est carrément différente quand même.
Alors nous avons, on a une ambition qui est celle de promouvoir le départ en vacances pour tous, et donc faire en sorte que le plus grand nombre d'enfants puissent accéder à ces loisirs collectifs, éducatifs, et donc en cela nous faisons cette promotion par le relais dans le département, parce que c'est une campagne nationale de solidarité. Nous relayons dans le département de l'Hérault cette campagne nationale avec pour premier levier donc les établissements scolaires. Mais souvent, je souhaite dans l'Hérault qu'on y associe également les accueils collectifs de mineurs, les centres de vacances, les centres de loisirs, pour qu'ils promeuvent avec nous le départ en vacances, l'intérêt d'y être. Donc c'est vrai que ça, c'est le premier grand objectif. Et pour y parvenir, nous relayons cette campagne avec l'espoir d'accueillir le maximum de dons des usagers de l'Hérault pour permettre d'attribuer des bourses aux enfants.
Et donc, vous avez plutôt une démarche, on peut dire, récupération de dons auprès de particuliers ou auprès de sociétés ou d'institutions?
Alors nous adressons essentiellement aux usagers, donc aux familles, aux individus en tant que tels et pas les groupes, qu'elles soient entreprises ou associatifs. Nous avons pour objectif de sensibiliser ces acteurs-là et nos premiers relais d'information sont bien évidemment les enfants qui sont sensibilisés par la jeunesse au plein air de l'Hérault, essentiellement aujourd'hui dans le cadre des activités scolaires.
Et vous avez donc commencé une campagne qui a débuté le 24 février dernier avec deux interventions, une à la Mosson notamment.
Oui. Alors nous avons, vous le dites, lancé la campagne de solidarité lundi 24 février dernier, donc ça se passait au rectorat, donc sous la présidence conjointe donc, de l'inspectrice d'académie d'Azen de l'Hérault et de l'inspecteur de la jeunesse et des sports pour la direction départementale de la cohésion sociale, puisque ce sont deux ministères qui sont en charge des questions éducatives, à la fois sur le temps scolaire et sur le temps libre des enfants. Et donc nous avons lancé cette campagne tout récemment, et nous souhaitons pouvoir la développer fortement dans ce département, puisque nous avons aujourd'hui la possibilité d'organiser ces actions dans les centres de loisirs, dans les centres de vacances, dans les établissements scolaires, par le biais de notre animateur référent qui a été embauché récemment pour cela.
Donc c'est vous qui faites la démarche auprès des classes, auprès des écoles, pour porter la bonne parole, ou bien ce sont à l'inverse les écoles qui doivent faire appel à vous pour que vous apportiez la bonne parole?
Alors on a un dispositif national, puisqu'aujourd'hui les questions de rationalisation, les moyens sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui donc c'est le niveau national, la JPA nationale, puisque nous sommes structurés nationalement, puis en région, puis en département. Donc c'est le niveau national, en partenariat avec le ministère, qui a adressé à chaque établissement scolaire une information, les invitant à nous solliciter. Et donc nous nous rendons compte que quand même les établissements scolaires sont aujourd'hui sous le feu de nombreuses informations et nous nous autorisons, et nous sommes très bien accueillis quand nous le faisons, d'interpeller nous-mêmes les établissements, de les solliciter. Et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, nous avons pu déjà mettre en œuvre des interventions, notamment à Grabels, dans une école maternelle, en petite section, et à La Mosson, Montpellier, auprès d'une classe de CE1, CE2.
Et justement, pour ce premier départ en vacances, vous disiez donc maternelle et, on va dire, préadolescent, vous avez un critère d'âge qui fait que vous n'intervenez que dans ce type d'école, on va dire de la maternelle au pratiquement jusqu'à 10 ans à peu près?
Alors, en fin de compte, c'est que la JPA dans l'Hérault se renouvelle depuis un an. Et donc, nous apprenons aujourd'hui à investir ces lieux-là, que nous n'investissions pas tant que ça. Et nous construisons en ce moment des outils. Et donc, nous avons commencé par le cycle 1, donc la maternelle. Mais la JPA a vocation à intervenir de la maternelle au lycée.
Parce que peut-on dire que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y aurait quand même des adolescents qui seraient déjà en classe de lycée et qui ne seraient jamais partis en vacances?
Alors c'est le cas, hein. nous connaissons, alors d'abord les adolescents par définition ne fréquentent plus tellement les structures centres de loisirs ou centres de vacances, et donc il faut pouvoir les y inviter, et donc nous savons que les établissements scolaires par contre organisent des séjours scolaires, et donc c'est en cela que nous souhaitons sensibiliser ces élèves, puisque nous pouvons également aider la JPA au départ en séjour scolaire ou en classe de découverte pour les plus jeunes, dans la mesure où nous avons un partenariat national, JPA-ANCV, Agence Nationale des Chèques Vacances, qui permet d'aider au départ de familles, d'enfants de familles ayant un coefficient familial inférieur à 901 euros, d'être aidés pour le départ en vacances.
Vous avez dit combien? Vous pouvez répéter le chiffre parce qu'il est effrayant.
901 euros. Voilà, nous sommes là dans un registre que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, la crise étant ce qu'elle est, ça fragilise davantage ces familles. Et donc, la JPA nationale, aidée de son partenaire, a souhaité se mobiliser. Et aujourd'hui, nous savons qu'un million d'euros est fléché pour aider le départ en vacances.
Et justement, par rapport à cela, je crois que vous avez aussi une spécificité qui vous est propre, mais qui est plus difficile à mettre en œuvre. C'est que vous souhaitez aussi pouvoir permettre le départ en vacances, et là c'est beaucoup plus compliqué, de personnes ou d'enfants handicapés.
Oui, c'est toujours dans le cadre de ce partenariat national où l'ANCV a souhaité aider le départ en classe de découverte, puisqu'aujourd'hui le départ en vacances reste quand même difficile pour certaines familles, difficile dans l'acceptation de laisser partir son enfant un certain temps, et donc les séjours scolaires sont relativement courts, et donc nous souhaitons par ce biais-là encourager les familles à laisser partir leur enfant, à mesurer qu'il y a de l'intérêt, notamment en termes d'épanouissement, en termes de connaissance de l'autre, de laïcité, à pouvoir participer à un séjour, quel qu'il soit, dans un premier temps scolaire, pour qu'aujourd'hui et demain, davantage d'enfants partent en vacances, partent en centre de loisirs. Donc, il est vrai que nous aidons le départ en classe de découverte dans le cadre de ce partenariat, mais une action importante a été mise en œuvre pour permettre aux enfants en situation de handicap de participer au centre de vacances. C'est vrai que souvent, l'obstacle auquel est confrontée une famille, c'est de faire face à l'aide humaine qui est nécessaire, selon le handicap, dans l'accompagnement de cet enfant en vacances. Nous avons accompagné depuis 2014 trois dossiers pour des enfants qui doivent partir souvent pas en proximité, puisque dans le département, il n'y a pas toujours l'offre souhaitée, adaptée. Et donc, nous avons aidé là le départ d'un enfant sur Paris. Donc un séjour qui s'élevait à 1430 et qui permettra de mobiliser des fonds à la fois de la MDPH et de la JPA pour permettre à la famille de ne supporter que 40 euros sur ce coût de 1430 euros et de permettre à cet enfant de vivre des vacances comme les autres.
Puisque vous parlez chiffres, Monsieur Russo, puis-je vous demander, non pas cette année parce que la campagne vient d'être lancée, mais par exemple sur l'année dernière, vous avez donc favorisé le départ de combien d'enfants?
Nous avons aidé donc 200 enfants à partir en vacances. Alors, je dis 200 enfants, mais j'y reviendrai parce que nous n'aidons pas que les enfants. Nous avons aidé 200 projets, 200 bénéficiaires dans le cadre de projets éducatifs. Et donc, ça représente près de 12 000 euros qui ont été fléchés sur ces départs. Donc, à la fois sur le dispositif national et sur les fonds propres. Sur les fonds propres départementaux, donc ces fonds propres sont constitués essentiellement des dons que nous font les familles héraultaises. Donc, nous avons aidé au départ. Alors, je disais au départ parce qu'en fin de compte, nous aidons le départ en centre de loisirs, en centre de vacances, en accueil de scoutisme. Nous aidons également les militants engagés chez nos confédérés éducation populaire, donc ceux qui souhaitent s'engager un peu plus et qui veulent passer le BAFA ou qui veulent passer le BFD, ces diplômes d'animateur ou de directeur de centre de vacances. Nous aidons ces jeunes à pouvoir financer ce départ en formation également.
Vous parliez de confédérés.
Oui.
Je pense qu'il serait peut-être utile et peut-être normal que vous les citiez si vous les avez tous en tête.
Oui, alors dans les quatre, nous nationalement, nous avons 44 organisations. Dans l'Hérault, nous n'en comptons que 14, puisque chaque organisation nationale n'a pas forcément une représentation départementale. En tout cas, dans l'Hérault, nous pouvons compter sur 14 confédérés. Pour l'éducation populaire, nous comptons les CMEA, les Éclaireurs de France, les Foyers ruraux, les Francas, la Ligue de l'enseignement, les Hauts-Lagrange, les PEP. Ensuite, nous avons les syndicats d'enseignement. Donc, nous comptons essentiellement l'ESE UNSA et l'UNSA Éducation. Nous avons les 10 partenaires de l'école. Là, nous avons l'AMGEN, l'AMAE, l'AFCPE, l'OCCE et les DDEN.
Ça fait beaucoup de monde.
Oui, ça fait beaucoup de monde, mais en même temps, c'est une richesse puisqu'on a vraiment d'abord une vision globale de la question éducative et nous avons, ci et là, des relais parce qu'aujourd'hui, la JPA n'était pas tant connue que ça. Mais nous connaissons bien les DDEN qui, aujourd'hui, dans les conseils d'école, parle aux familles, parle aux enseignants de la JPA, des possibilités d'aider les enfants dans le cadre des projets qu'ils développent et bien évidemment les inviter à participer à cette campagne en adressant un don, quel qu'il soit. Hein, nous avons des familles ou des écoles qui nous adressent leur don de la collecte. Quelquefois, il se résume à 10 euros, mais 10 euros, moi je me dis, on a 1000 établissements dans l'Hérault. Si on recevait 10 euros de chaque établissement, nous aurions déjà une bonne cagnotte pour aider le départ en vacances.
Vous parliez donc, effectivement, je pense que l'accueil du milieu enseignant est forcément très très favorable. Est-ce que je puis vous demander quel est l'accueil des familles ?
Alors les familles, alors j'ai devant moi, alors les familles, lorsqu'elles sont mises en relation par des travailleurs sociaux, parce que des travailleurs sociaux connaissent un peu plus notre action aujourd'hui, et donc il y a ce travail qui est fait pour qu'elles osent venir nous solliciter. Alors nous avons des familles qui s'intéressent à la JPA par le biais d'Internet, d'autres par le biais d'intermédiaires travailleurs sociaux, d'autres par des écoles qui leur parlent des possibilités. Et donc ces familles accueillent bien évidemment l'aide de la JPA avec beaucoup de modestie, parce que ce n'est pas toujours simple de pouvoir solliciter une aide. Mais aujourd'hui, nous, on a encore en souvenir cette famille qu'on a reçue dans nos locaux pour monter le dossier, parce qu'il n'est pas très compliqué, mais on a souvent besoin d'accompagner ces familles dans le montage de dossiers. Et donc, nous les accompagnons dans nos locaux et on accueille souvent leurs enfants en situation d'autisme, en situation d'handicap moteur. Et c'est vraiment un réel plaisir de voir que nous allons pouvoir contribuer à ce bonheur.
Monsieur Russo, le temps passe et il passe trop vite parfois. Et je voudrais vous poser une question parce que peut-être que pour nos auditeurs, ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Est-ce que votre aide ne peut être, notre réceptionnaire, pardon, que de demandes du corps enseignant ou bien est-ce que des familles peuvent s'adresser directement à vous ?
Non, les familles peuvent s'adresser bien évidemment directement à nous. Nous avons aujourd'hui une stratégie nationale qui vise à sensibiliser les enseignants puisque tous les enfants vont à l'école. Donc tous les enfants y sont, leurs familles peuvent être rencontrées là aussi. Mais les familles peuvent engager une démarche personnelle auprès de la JPA. Il suffit, soit, si on peut laisser les coordonnées téléphoniques,
bien sûr, j'allais vous y inviter, on est là pour ça. Hein.
De nous appeler au siège départemental au 04 67 06 82 83.
Vous voulez le répéter ?
04 67 06 82 83 ou nous adresser par mail, ceux qui le maîtrisent, à jpa34@jpa.asso.fr. Toute demande, nous leur adresserons le formulaire de bourse. Si on a un message sur notre répondeur, nous leur ferons parvenir ce formulaire également qui a été simplifié. On ne peut pas faire plus simple pour que ce ne soit pas un obstacle non plus pour des demandes. Peut-être dire que sur les enseignants qui souhaitent développer une action dans leurs établissements, la JPA leur met à disposition gratuitement des outils pour leur permettre de sensibiliser leurs enfants. Des affiches, des supports pédagogiques, un guide pédagogique comme on peut en connaître lorsqu'on fait l'école normale, l'UFM aujourd'hui, l'ESPE. Donc des outils pour pouvoir parler de cette question pas toujours si simple, de la solidarité, du partage, de la citoyenneté, de la laïcité dans les établissements scolaires.
Monsieur Russo, avant qu'on se quitte, je vous demandais de tout répéter parce que c'est trop important. Et je trouve que votre démarche est tellement passionnante et vous êtes tellement enthousiaste autour de ces projets qu'il me paraît souhaitable que chacun puisse prendre note de ce que vous avez indiqué au niveau téléphonique et au niveau du site web. Et puis, on va quand même rappeler pour ceux qui n'auraient pas le temps de se ruer sur un stylo que quoi qu'il en soit, bien évidemment, l'émission est rediffusée ce soir à 17h30 et qu'également, elle sera podcastable pendant un an. Ce qui fait qu'on pourra toujours retrouver vos références, mais veuillez quand même les rappeler, s'il vous plaît.
Oui, donc n'hésitez pas à nous contacter au 04 67 06 82 83, nous adresser un mail à jpa34 jpa.asso.fr.
Monsieur Rousson, on va devoir se quitter.
Oui.
Je pense qu'on se reverra.
Mais on se reverra, puisque nous avons discuté aux antennes d'un projet qui pourrait intéresser nos confédérés.
On ne va pas tout dévoiler.
Non.
Ce sera donc pour une prochaine fois. Merci encore et
merci
donc à
vous,
très bientôt.
Surtout, et à bientôt, au revoir.
Eh bien, nous voici donc pour le troisième plateau, et cette fois-ci complètement, mais alors complètement différent, puisque nous recevons...
Non, moi j'aime bien la samba aussi.
Ah bon? Bon, bah écoutez, voilà. Vous avez peut-être reconnu ça, parce qu'il vient de nous voir assez souvent, Ludo. Alors j'ai dit Ludo parce qu'on se connaît effectivement assez bien. Donc en fait, c'est Ludo.
Bonjour, Divergence.
Ludovic Deleu, qui est le responsable d'édition du célèbre, on va dire, mensuel Leitmotiv. Et...
célèbre, ça me...
célèbre, ouais, c'est très célèbre. Et... Ludo, quand même. 50e numéro ?
Oui, 50e numéro. C'est vrai que ça se fête en général. Alors, on ne va pas faire de grosses soirées ou de choses comme ça, parce que c'est un peu moins la saison, puis parce qu'on reste assez occupé. Mais oui, c'est un beau chiffre. Hein. C'est un beau chiffre qui tombe bien rond. Et on est assez fiers de ça, de tenir surtout, parce qu'on est célèbre, mais c'est quand même difficile de faire de la presse.
Et oui, on entend tellement parler actuellement.
C'est toi qui le dis, hein. on va pas...
Non, mais c'est vrai, parce que bon, on va pas, non, tout le monde sait que Libération a des difficultés, tout le monde sait que toute la presse quotidienne, hebdomadaire, se retrouve confrontée à de graves difficultés. Et c'est d'autant plus méritoire de voir qu'un magazine comme le tien perdure.
Merci.
Parce qu'il faut dire quand même que je suis quand même informé, avant Leitmotiv... il y a quand même un passé précédent.
Ce qui il y a fait toute
que ça,
une histoire.
Ça dure depuis 20 ans, cette belle aventure.
Ça va faire... je crois qu'on a arrondi un peu facilement dans l'édito. On n'est pas loin des 20 ans, sans parler des diverses participations à d'autres projets qu'on fait moi-même et d'autres personnes qui collaborent encore avec nous dans la presse ou dans la radio à Montpellier. Mais c'est vrai qu'il y a 136 numéros du Caucasine, qui est l'ancêtre du... l'ancêtre du leitmotiv, quoi. Bon, avec plein de gens différents, hein, qui sont pour la plupart restés des amis, mais qui font complètement autre chose maintenant, qui sont plus du tout dans l'aventure du leitmotiv. Mais voilà, numéro 50, ça nous a permis un peu de les citer, ça rappelle quelques souvenirs. Et puis surtout, ce qu'on dit dans l'édito, c'est que c'est grâce à eux qu'on existe, parce que ça a été comme une rampe de lancement, quoi, un peu le Caucasine. Je pense que sans le Caucasine, on n'aurait pas pu créer un tel projet comme ça. Il y a 5 ans, vu la période actuelle, vu la difficulté de faire de la presse gratuite, surtout, parce qu'on parlait de presse, tu parlais de Libé, mais surtout la presse gratuite, c'est encore plus difficile. On n'a aucune rentrée économique, on vit uniquement avec les annonceurs et les partenaires. Donc voilà, c'était bien de les citer, c'est bien que tu en parles aussi d'ailleurs. Ouais.
Mais tout est bien à Divergence.
C'est d'accord.
Voilà, et donc, pour ce 50e numéro, innovation majeure, l'arrivée de la parole des politiques dans le journal.
Alors, j'ai pas envie de dire innovation, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Une innovation, ça voudrait dire que peut-être on perdurerait cette idée-là. Là, je pense que c'est pas la peine de dire. Peut-être certains auditeurs sont pas au courant, mais il va y avoir des élections bientôt. Mais bon, c'est vraiment de saison, hein. Voilà, des élections municipales. En plus, on le fait pour les municipales. On l'a pas fait pour les présidentielles. On le fait pas pour des législatives, etc. Les élections locales sont importantes, nous touchent vraiment. Et puis donc voilà, il y a eu cette idée de parler politique, mais surtout de parler culture. Alors la culture, c'est aussi de la politique, hein, et depuis quelques années encore plus, hein, avec ce lien très très fort au niveau des subventions, quoi. Genre, la culture a du mal à vivre sans l'aide des collectivités. Donc c'est des questions qui sont importantes. On est allé interviewer tous les candidats, enfin pas tous. Pas tous, parce qu'il y en a certains qui n'étaient pas encore déclarés. En tout cas, tout ce qui était déclaré au moment où on a bouclé ce numéro, il y a une quinzaine de jours.
Alors, je vais faire juste 30 secondes pour dire que nous, eh bien, on va les recevoir lundi prochain, les têtes de liste, à partir de 17h30 jusqu'à 19h au bar de la Vieille Porte, qui se trouve tout simplement au bas de la rue de l'université. Donc nous aussi, on colle à l'actualité, c'est normal pour un média, et je trouve quand même assez sympathique que le magazine qui d'ordinaire s'occupe principalement culture et tendance urbaine, c'est ainsi que vous le définissez, de voir que vous êtes allé vous aussi vous enquérir un peu, de savoir quelle était la perception de la culture qu'avaient les politiques.
Oui, bien sûr. C'est plus difficile à faire en presse qu'en radio, parce que la parole est plus libre, plus spontanée. En presse, c'est pas forcément évident. Puis un peu des calculs de la part des candidats. Et surtout, tu nous connais, peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a un petit format. Donc on est obligé de synthétiser un petit peu. On pouvait pas laisser, on a un magazine de 100 pages sur un petit format. On pouvait pas laisser 4 ou 6 pages par candidat. Ça aurait bouffé la moitié du mag. Même si ça aurait été intéressant, j'en suis certain. Ça aurait complètement déséquilibré notre mois de mars. C'est bientôt le printemps et il se passe plein de choses très intéressantes. Je pense qu'on en parlera, on l'évoquera un petit
Bien
peu
sûr.
Tout à l'heure. Mais oui, c'est important. C'est important le projet culturel. Alors évidemment, on est dans une période où les candidats se concentrent davantage sur les attentes des habitants, quoi, qui sont l'emploi, le logement, les transports. Bon, la sécurité aussi, même si c'est un sujet qui est un peu plus embêtant à certains niveaux, parce que bon, c'est quand même assez tranquille vers chez nous. Bref, tout le monde ne le pense pas. Mais la culture aussi, la culture c'est important, surtout voilà, il y a eu des chiffres qui sont tombés en début d'année, qui sont très très importants. J'étais assez surpris d'ailleurs de voir à quel point les candidats n'étaient pas au courant, même des candidats de gauche. Voilà, un rapport de la DRAC, enfin du ministère de la Culture, qui souligne que l'industrie culturelle génère parfois autant et même certaines fois plus de bénéfices et de richesses que certaines industries et services en France. Et ça, il faut le savoir, c'est pas une demi-nouvelle.
Puis il y a aussi quand même l'image de marque de la France qui est véhiculée au travers de la culture. Parce que si on ne parle évidemment qu'économie, on va véhiculer une image économique, c'est le cas de le dire. Alors qu'au niveau culturel, ben oui, on est quand même certainement le pays du luxe, comme on dit, avec beaucoup de facilité, mais aussi quand même, on est quand même un pays culturel qui a une culture assez développée.
Oui, c'est ça. Non, il y a le rayon. C'est vrai que c'est important l'aspect économique, parce que faire savoir qu'un festival, c'est pas juste montrer des œuvres, ça remplit des hôtels, ça fait tourner les commerces, ça fait balader les gens dans l'arrière-pays, ça fait découvrir des choses, ça donne des projets de vie à des gens qui, après avoir passé un moment ici pour un événement en particulier, découvrir la région, l'a adoré, est venu s'y installer. Enfin, il y a plein de choses qui irradient, enfin qui sortent de la culture et qui sont souvent un peu gommées sous. Voilà, souvent le long des entretiens à Montpellier, c'est une culture élitiste, c'est une culture pour les bobos. Voilà, ce mot, je ne le supporte plus. Ils me l'ont tous sorti, les bobos, on ne sait même pas ce que ça veut dire, les bobos. Je ne savais même pas qu'il y avait des bobos à Montpellier. Hein. Moi, j'en ai vu à Paris, quoi, mais c'est. Voilà. Bon. Voilà. On va pas s'emballer non plus.
Non, on va pas s'emballer. Mais par
je viendrai à la vieille porte la semaine prochaine.
Par rapport à ce que tu viens de dire, on va quand même rappeler, parce que les chiffres sont sortis ce matin, que l'exposition photo Linda McCartney, ça a quand même drainé 17 000 personnes.
Ah oui, en seulement un petit mois là. C'est beau.
Donc ça prouve que la culture, comme tu disais.
Même pas, je crois que c'était le 20.
Non, ça
25,
fait 15 jours à peine.
15 jours, 3 semaines. Ouais.
Ça amène quand même des gens à venir à Montpellier et découvrir peut-être, au travers de la culture, effectivement, notre belle ville, notre belle région.
Bon, Paul McCartney, par contre, il n'est pas resté assez longtemps pour s'installer ici.
C'est vrai qu'il y avait, plus de CRS que de.
Il n'avait pas le temps. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait.
Oui, mais tu sais, gentleman farmer, ça occupe.
Ça doit être ça.
Ça doit être ça. On va quand même parler donc du numéro 50. Alors ce numéro 50, dis-moi Ludo, que contient-il ?
Voilà, mis à part ce dossier culturel qui prend pas mal de place, hein, qui prend, je pense, 14 pages, on n'a pas fait un numéro spécial. Hein. L'idée, numéro 50, c'était pas non plus... Je sais que certains confrères le font des fois, alors c'est un peu l'auto-gratification. Et vas-y que je reprasse mes anciens articles... Et que je me touchote le nombril, etc. Bon, ça nous arrive des fois de nous la péter, il faut l'avouer, mais on essaye d'éviter quand même le plus souvent possible. Donc c'est un sommaire vraiment printanier avec des beaux événements. On parle à la fois du TIL, qui a un excellent festival électro, alors qui est un peu plus loin à Perpignan, mais on sait que le public amateur d'électro n'hésite jamais à prendre la bagnole et faire 200 bandes pour aller s'en mettre plein les oreilles. Hein. Ça c'est certain. Donc il y a une très belle programmation au TIL à l'archipel, principalement Mediator. On parle aussi de très beaux concerts à Paloma, mais ça c'est pas une nouvelle, hein. Tous les mois il y a beaucoup de belles choses dans cette salle nimoise. On parle aussi du Festival d'Itinérance, qui est un très bel événement au cinéma à Alès. Pareil, il faut faire un peu de route, mais un week-end à Alès pour aller voir des bons films à des tarifs qui sont vraiment très très bas, avec une thématique toujours itinérance, toujours une thématique très voyageuse, etc. Donc c'est très intéressant, c'est notamment lié à nous, un artiste qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Pierce Faccini, qui est un chanteur anglais d'origine italienne, qui vient d'installer dans les Cévennes depuis plusieurs années, qui a sorti 5 ou 6 albums magnifiques, une espèce de blues folk, un peu chamanique, très, très habité, qui on ne le savait pas, on l'a découvert à l'occasion de cet événement, et avant d'être chanteur, a fait les Beaux-Arts, et peintre, plasticien. Il va avoir une exposition au Pape d'Alès liée au Festival d'Itinérance, où il est invité. Il y aura aussi des concerts de lui, avec des invités, et aussi une très belle expo sur ses dessins et ses peintures. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre du spectacle, hein. Beaucoup, comme d'habitude. On a mis en avant un très beau spectacle qui s'appelle Acrobate. Non, je crois qu'il était passé, c'était ce week-end, au théâtre Jean-Claude Carrière. On parle du théâtre de Sète, du théâtre de Nîmes, de plein de choses. Voilà.
Donc il faut quand même que vous compreniez qu'effectivement, leitmotiv, ce n'est pas Montpellier, hop, on s'arrête du côté de Figueroles, de l'autre côté, on va dire, au début de la route de Nîmes, mais ça va bien au-delà de ça.
Oh oui, oui, oui.
Et ça intervient un peu et ça fait valoir tout ce qui se passe dans notre si belle région.
Voilà, on se concentre principalement sur l'Hérault, bien sûr, c'est un peu le plus gros de notre... On va rentrer, Nîmes n'est pas dans l'Hérault, mais bon, vraiment dans cette région-là. On ne s'empêche pas d'aller s'aventurer ailleurs, parce qu'on, comme je disais tout à l'heure pour la musique électronique, mais il y a aussi une curiosité. Moi, je connais des gens qui vont aller à Sérignan, voir une nouvelle expo du musée d'art contemporain, parce qu'ils aiment ça, puis c'est toujours une balade, une région qui est magnifique. On a mis toujours le plaisir et la culture, hein, souvent. Mais oui, on s'est restreint avant, on allait encore plus loin, mais bon, il aurait fallu beaucoup plus de pages et beaucoup plus d'énergie. Voilà.
Peut-être un peu plus de moyens, peut-être
Parfois. Je n'osais pas le dire.
Mais pourquoi?
J'aime pas me plaindre.
Il faut tout
J'aime
dire.
Pas me plaindre.
L'émergence, les micros sont ouverts, on peut pratiquement tout
non, mais
dire.
Justement, dans l'édito, on m'a déjà taclé. Dans l'édito, je me moque un petit peu de... Je ne sais plus comment on a dit ça, je n'ai pas le magazine sous les yeux. Les pleurnichards ou les pleureurs sont en train de dire « on n'a pas assez de sous, donnez-nous des sous ». Je ne sais pas, voilà. Si ton projet ne marche pas, bon, il faut se battre. Il y a un moment où c'est difficile, il faut aller les chercher. C'est une lutte quotidienne, vous êtes bien placé pour le savoir, en tant que radio associative, etc. C'est difficile, mais si ton projet ne marche pas, tu arrêtes ou tu fais autre chose. Bon, en tout cas, tu ne te plains pas tout le temps en façade devant tes auditeurs ou tes lecteurs, etc. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas parlé de plus de moyens. J'essaie toujours de dire qu'on va super bien. Bon, je dis pas qu'on est pété de thunes, parce que en plus on nous croirait pas. On ferait un autre métier, hein, si on était pété de thunes, on travaillerait pas peut-être, hein, je sais pas.
Non. Moi, je vais quand même dire quelque chose que je... Ça, c'est un avis très personnel. Et voilà, fois, je le dis, mais je donne mon avis très personnel. Mm-hmm. Je pense que sans être pété de thunes, comme tu dis si bien, vous êtes un magazine qui reflète quand même un certain idéal et une esthétique irréprochable.
Tu ne vas pas me dire que c'est un magazine pour les bobos, j'espère.
J'ai rien.
Je te remercie. Non, non, c'est... Merci, oh, non, c'est un compliment.
Sinon, c'est que je serai parmi les bobos. Mais toi, ce que tu
c'est
dis,
c'est des fois des bobos sortent de ce corps, quoi.
Ouais.
Non, oui. Après, c'est un magazine qui nous, qui forcément par nature nous ressemble. On n'est pas beaucoup à le faire. On est quelques-uns. On fait nos choix éditoriaux. Comme tu disais, on va assez loin. Donc, on a un panel de choix éditoriels très très large chaque mois. À partir du moment où on englobe tous les théâtres, toutes les scènes nationales de la région. Les musées d'art contemporain, les galeries, les salles de concert. Si on voulait être exhaustif, il nous faudrait le double de pages. Et encore, je ne pense pas qu'on y arriverait à être exhaustif. L'exhaustivité est vraiment très difficile. Il faut faire des choix. La Gazette peut être exhaustive parce qu'elle a beaucoup de pages, un très grand format, un agenda par exemple très très fourni, qui est très précis et très appréciable d'ailleurs quand on veut être très très précisément informé. Donc on fait des choix, des fois qui sont assez tranchés, des fois on oublie des choses, des fois on est contraint de faire certains choix pour certaines alliances, voilà, comme tu disais, il faut vivre aussi. On arrive à s'en sortir pas mal à ce niveau-là, je trouve. Mais oui, ouais, il nous ressemble en tout cas, ouais.
Et alors, puisqu'on parlait un peu de moyens, si, on va faire un rêve. Tu veux bien faire un rêve avec moi ?
Ah, vas-y, alors, je sais pas.
Supposons que tu as un budget, non pas illimité, parce qu'il y a toujours une limite à un budget, quelles seraient donc les options de Leitmotiv si tu avais plus de moyens ?
Ben, je ferai autre chose.
Carrément.
Non, je plaisante. Je sais pas, je rachèterai Divergence, je rachèterai la salle Victoire 2, je mettrai tout le monde dedans, je ferai venir plein de gens qui ont du talent, de la valeur, de la qualité, qui galèrent, qui misèrent, que ce soit des pigistes, des journalistes, des auteurs, des artistes. On ouvrirait, ferait tomber 2-3 cloisons, on aurait un beau studio, et puis on ferait, je sais pas, il y a des exemples en France, on ferait un truc style la coopérative de mai ou des choses comme ça.
On ferait la fondation Leitmotiv.
Non, on trouverait un autre nom. Non. En plus, Leitmotiv, c'est un nom qui vient. Tu parlais tout à l'heure du dossier politique, c'est la première fois. En fait, on s'est inspiré de notre feu collègue édition toulousaine qui n'existe plus maintenant mais qui était la maison mère du Leitmotiv. C'est eux qui l'ont créé au moment où on faisait encore le Caucasine. Ils avaient fait ce dossier politique il y a 6 ans et qui était très intéressant, on s'en est inspiré. Et le nom Leitmotiv vient de Toulouse. C'est pas qu'il me déplaît, mais il est un peu abscon parfois. Je changerai. C'est vrai qu'on a un peu basculé sur LM qui est des initiales, qui est un peu plus énigmatique. Bon, même quand on est à Montpellier, c'est plutôt pratique d'avoir un M dans son nom. Ça, il se identifie un petit peu. Voilà.
Ludo, en tant que manager, effectivement, de la revue, tu as fort... Je ne dis pas des préférences, parce que ce serait te mettre dans l'embarras, mais tu as parfois des coups de cœur, et notamment, musicalement parlant, pour ce mois-ci, tu as choisi...
Là, ce que j'ai amené, non, c'est des nouveautés... c'est des nouveautés... Qui sont sortis, que j'ai reçus, que j'ai écoutés dernièrement, dont on ne parle pas dans ce numéro-là. Il y a de fortes chances qu'on en parle. On ne fait plus de chroniques de disques, hein, déjà, d'une part. C'est un choix, parce que c'est pareil, ça, c'est par rapport au format. On en faisait 5 ou 6. Alors, c'était vraiment un choix cornélien. Alors, on parle de lui, alors on garde un local et tout. J'ai préféré virer ces pages-là et faire plus de pages sur des propositions de concerts, quoi. Donc, des fois, il y a des albums qui sortent et un concert qui est lié, donc c'est assez pratique. Donc, on ne fait plus de chroniques de disques, donc ça limite un petit peu. Mais non, moi, un des concerts que j'aime beaucoup, que j'irai voir ce mois-ci, on va dire ce sera un coup de cœur, c'est aller voir Robert Glasper et Mos Def au Paloma à Nîmes, qui annonce un très très bon, très bel événement. Toi, amateur de jazz, Glasper, tu dois connaître. Mos Def, peut-être un peu moins. L'association des deux.
T'as vu comme tu es, tu m'as viré des bobos, c'est pas bien.
Voilà, ça c'est à ne pas rater, hein, je pense. Et non, là, je vous ai amené une nouveauté, c'est le nouvel album de Congo Punk. Excellent disque, projet duo solo de Cyril Atif, bien connu, batteur de M pour certains qui connaissent, mais aussi de Boomchello. C'est un projet électro-rock très barré, vraiment fou. Et là, c'est un morceau en compagnie de Latif de True Speaker, un gars des Quanum, collectif californien de hip-hop que les amateurs connaissent bien. Voilà. C'est sorti le 5 mars.
C'est avec ça qu'on va se quitter.
Très bien.
Il me reste à te remercier d'être venu nous voir.
C'est moi qui te remercie, qui vous remercie de cette invitation cordiale.
Ça a été une improvisation, puisque en principe, c'est Gilles Bouget qui fait...
Comment va-t-il ?
Ben, il va.
Il va
bien.
Il va bien. Très bonne nouvelle. J'ai hâte de le revoir.
Voilà.
On lui passe le coucou, le bonjour.
T'inquiète pas, ça sera fait. Voilà, c'était donc la fin de cette émission de l'Auberge Espagnole. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de bien d'autres aventures, évidemment. Ludo, bye bye.
Salut, à bientôt.
Pushing it, wouldn't stop. Couldn't if you wanted to rock. In a hard place, I'm in between.